Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Bonsoir, vous êtes bien sûr à l'écoute de 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes avec nous pour écouter les déportés du Cambrien, troisième émission. Nous sommes en alternance avec Angle Mort tous les 15 jours à cette même heure sur cette même station.
On lui fait des bisous parce qu'il nous a fait des bisous la semaine dernière.
Ah bon?
Et donc ce soir, que vous soyez des animaux à sang chaud ou des animaux à sang froid, en tout cas, vous êtes avec nous, bien au chaud, chez vous, dans votre terrier. Et pour nous écouter aboyer autour de la table, et je vais tout de suite céder la parole à notre chef de meute de la soirée, Sonia.
Alors, bienvenue sur 102.2. Alors, ce soir, on va parler d'espèces animales. Encore un petit peu d'habiter, de sensations, d'émotions et d'expériences animales. On va commencer tout de suite avec un ping-pong avec Ben et Fabien autour de l'auteur Von Linkskull.
Von Linkskull. Jacob Von Linkskull.
Yes. Voilà. Donc Von Linkskull.
Ja, mein Herr.
Jacob. Ben, je te laisse la parole alors.
Allez, c'est parti. Du coup, ce brave homme, Jacob Von Linkskull, a écrit un livre qui s'appelle Mondes animaux et mondes humains. Et en fait, il analyse des comportements animaux et il a déterminé que chaque créature est connecté à ce que nous, on appelle le monde, mais en fait qui est constitué de plusieurs mondes qui coexistent. Et chaque espèce réagit en fonction de certains affects. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas toutes penser et sentir le monde de la même manière. Et penser un monde unique et global, ça c'est une aberration de l'esprit humain, de notre société de consommation actuelle qui a fait qu'on s'est développé et qu'on pense le monde dans une unité comme un village global avec internet, etc. Mais en fait ça c'est juste une fiction, une vue de notre esprit, parce que c'est complètement inconcevable d'imaginer que un paon il vit dans le même monde qu'un ours polaire. C'est deux choses, voilà. Donc chaque espèce va réagir à certains affects. Donc les affects sont des paramètres qui l'affecte. Donc, par exemple, il prend la tique en premier animal de sujet d'étude. Et la tique, en fait, elle a que trois affects. Donc, c'est une espèce hyper limitée. Ses affects, c'est mouvement, chaleur et détection. Pour simplifier, je vais dire du goût, du sens. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais tant qu'elle n'est pas mise en action par ces trois facteurs réunis, elle reste en sommeil. Ça veut dire qu'elle peut rester pendant des semaines, des mois, des années en attente jusqu'à ce que les conditions qui vont la mettre en mouvement soient réunies. Donc en fait, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc si c'est un serpent qui passe sous la tique, elle va pas bouger. Par contre, si c'est un chien, une vache, un humain, elle va se décrocher de sa branche sur laquelle elle était en sommeil, aller chercher sur la peau pour trouver un endroit où elle peut piquer pour pouvoir pondre ses œufs et etc. et continuer son cycle. Mais donc du coup, on peut pas du tout dire que la tique vit dans le même monde que le serpent. Il va y avoir des points de connexion entre la tique et certains mammifères qui vont passer à sa portée, mais sinon, c'est vraiment deux univers séparés, même une multitude d'univers séparés. Donc nos affects, en tant qu'espèces, pour les espèces animales, et nous aussi, en tant qu'humains, on a une plus large variété d'affects, mais on est conditionné par cette façon qu'on a de percevoir le monde. Il prend ensuite un deuxième exemple, c'est le chouka, qui est une espèce de corbeau, et il explique que ce chouka, il vit dans un monde d'aller-retour, dans un monde qui connaît pas le cercle. S'il sort de chez lui par la droite, c'est inconcevable, impensable qu'il arrive à retrouver son nid en arrivant de l'autre côté. Il faut qu'il revienne par le chemin qu'il a emprunté au départ. Donc, à supposer que ce chouka en vienne à développer une philosophie ou une façon de penser le monde, ce qui est pas improbable parce qu'il y a eu des études qui ont montré que le corbeau et le chouka sont des animaux qui sont capables de résoudre des problèmes. Si on les met face à une situation critique, ils vont être capables d'inventer pour dépasser le problème. Donc c'est une forme de pensée animale. Donc de là, imaginer qu'ils puissent penser consciemment le monde, c'est encore, on n'en est pas là, mais bon, prenons quand même cette hypothèse comme un plan de travail possible. Eh ben, le chouka, quand il développera sa philosophie, elle va être conditionnée par cet aller-retour. Donc il ne pourra pas penser les fameux cercles d'éternel retour de Nietzsche ou des choses comme ça, parce que sa construction mentale lui interdit de sortir du schéma d'aller-retour. Voilà à peu près pour ce premier aspect. Je pense que Fabien va rebondir.
Ouais. On sent bien un peu tout chouka des fois, hein. Nous aussi, quand on n'arrive pas à rentrer à la maison le soir.
Aller-retour.
On passe toujours par le même chemin.
Ou alors on se souvient carrément pas du chemin qu'on a pris.
C'est plutôt ça.
Ouais, juste. Non, c'est désagréable en fait. Je te vois pas. Mais je savais pas si tu voulais rebondir plus que ça.
Non, c'était une blague.
C'est toi qui rebondis.
C'est moi qui rebondis. Oui, effectivement, parce que il y avait des choses qui m'intéressaient dans ce que tu disais. Parce que moi, je connaissais pas cet auteur, Jacob van Uxkull. Mais de ce que j'en comprends, c'est que il faut comprendre en fait un animal dans son milieu. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'animal comme point de référence et finalement on va développer la subjectivité de l'animal, quoi. Donc on essaye de partir de l'animal pour comprendre comment il évolue dans son milieu. Et moi, ça m'intéressait parce que ces aspects de subjectivité en fait ont été repris par un philosophe de l'esprit, Thomas Nagel, qui en 1974 a rédigé un article qui s'appelle « Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ?» Alors c'est une expérience de pensée qu'il nous propose. Il essaye de nous guider pour essayer de comprendre, selon le point de vue de la chauve-souris, comment c'est d'être une chauve-souris, et notamment de comprendre comment elle se déplace, puisqu'elle a un spectre sensoriel qui est assez différent de celui de l'humain. Et notamment, cette chauve-souris, elle va se déplacer par le système d'écholocation. Alors l'écholocation, c'est le fait que cette chauve-souris va envoyer des sons à haute fréquence, que ces sons vont rebondir en fait sur les objets, sur les obstacles, sur les proies, et après revenir en fait à la chauve-souris, qui va donc avoir une idée finalement de la distance, de la taille de l'objet ou de l'animal. Donc c'est un déplacement, ça lui permet de se nourrir, d'échapper à des proies. Donc Thomas Nagel nous explique ce système d'écholocation et nous explique que nous n'avons pas, nous, ce spectre sensoriel. On ne peut pas émettre des sons de haute fréquence. Donc nous, les humains, on ne peut pas ressentir subjectivement ce que ça fait de se déplacer ainsi. Donc on ne sait pas en fait quel effet ça fait d'être une chauve-souris. Et pourquoi il prend cet exemple, Nagel? C'est parce qu'il veut expliquer en fait ce qu'est, selon lui, en fait la conscience phénoménologique, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aussi les philosophes les kalia, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette conscience en fait qui est une expérience purement intrinsèque, qui est purement qualitative, privée, inaccessible à la connaissance objective et qui est même ineffable, c'est-à-dire incommunicable. On ne peut pas vraiment expliquer ce que ça nous fait, en fait, de ressentir certaines choses. Et donc, il prend l'expérience de cette chauve-souris pour expliquer, bah voilà, les chauves-souris aussi ont des expériences, peut-être conscientes. Alors là, on pourrait revenir sur cette propriété éventuelle de la chauve-souris d'être consciente. Mais en tout cas, là, elle a une expérience subjective que nous, on ne peut pas appréhender. Et donc, il met en fait cette conscience phénoménologique qu'il définit de cette façon-là en opposition avec le côté objectif de l'écolocation. Parce que les biologistes vont pouvoir expliquer d'un point de vue biologique, neuronal, ce que c'est que l'écolocation, c'est-à-dire qu'on a un système d'émission d'ondes à haute fréquence. On va pouvoir décrire le système neuronal qui va permettre le codage de cette information. Donc on peut le décrire d'un point de vue matérialiste.
Ouais, c'est quelque chose qu'on va pouvoir expliquer scientifiquement par des exemples qu'on peut comprendre, mais qu'on peut pas ressentir.
Exactement. Donc pour lui, c'est une description matérialiste, mais ça n'explique rien de la conscience. Alors que beaucoup de neuroscientifiques, notamment, vont dire bah non, c'est ça la conscience. En fait, la conscience, c'est simplement le fait, qu'il y a des neurones qui vont, communiquer et que on peut décrire en fait la conscience simplement de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir parce que je trouve que c'est intéressant. En fait, ça renvoie aussi à cette notion-là de subjectivité et peut-être aussi pour faire un lien avec notre émission parce qu'on parle un petit peu parfois de science-fiction. C'est qu'avec une autre expérience de pensée chez les philosophes, c'est le zombie, alors qu'on connaît davantage en fait avec les films, avec les ouvrages. Et le zombie est aussi une expérience de pensée chez les philosophes qui essaye d'expliquer en fait ce que ça pourrait être en fait d'être un être humain qui perçoit, qui agit, qui a de la mémoire, mais qui n'a pas cette conscience phénoménologique. Et donc, ils vont utiliser ce type d'expérience pour essayer d'argumenter sur la véracité de la conscience subjective, etc., etc. Voilà pour mon intervention.
Ok.
Ouais, bon rebond.
Vous l'aurez compris, on est ici ce soir pour parler des mondes animaux et du monde humain. Et on va essayer, nous en tout cas, tout au long de cette heure, de s'approprier quelque chose en pensée de nos amis les bêtes, quoi, et de voir à quoi elles peuvent nous faire réfléchir. Et à quoi elles peuvent nous faire penser. En attendant, on va aller du côté du pulsionnel, en écoutant les Stooges, I Wanna Be Your Dog. Donc on oublie un peu la réflexion et puis on pogote. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu 102.2, les déportés du Cambrien, et ce soir l'exploration des mondes animaux et du monde humain et de leurs interconnexions. Et on continue avec dans ce ping-pong avec une nouvelle intervention de Ben.
C'est reparti, ouais, j'enchaîne direct avec la chauve-souris, là, ce que Fabien nous a expliqué brillamment. C'est une histoire, en fait, de dotation biologique. En fait, il faut un organe pour ressentir un élément particulier. On n'a pas l'organe ou la constitution du cerveau de la chauve-souris, donc on peut pas vivre l'émission de ondes à haute fréquence. C'est pareil pour les couleurs. Par exemple, on va parler un tout petit peu de Bergson. Je vous fais ça de mémoire d'un vieux cours de philo de terminale, parce que j'ai pas bossé, mais en gros, Bergson essaye de ramener le monde à des éléments essentiels et des unités de sens primordiales. Donc par exemple, je vais vous la faire avec un truc qui va mieux nous permettre de comprendre. Je veux dire une petite cuillère. Pour dire une petite cuillère, je ne vais pas dire une petite cuillère tout de suite, je vais d'abord parler du plus grand pour réduire le spectre petit à petit pour arriver à la cuillère. Donc je vais d'abord dire la maison, dans la maison je vais dire la cuisine, dans la cuisine je vais dire le meuble à vaisselle, dans le meuble à vaisselle je vais dire le tiroir, dans le tiroir je vais dire les couverts, et enfin au milieu des couverts je vais trouver ma cuillère. Donc la cuillère, ce serait ce plus petit élément de sens et perceptible. Et un autre élément essentiel, comme ça, donc là on va être sur du moins concret, à la cuillère c'était pour bien que les auditeurs du dimanche soir fatigués comprennent, mais c'est la même chose pour les couleurs par exemple. Les couleurs, ce sont des unités définitives, en cela qu'elles ne peuvent pas s'expliquer autrement que par elles-mêmes. Donc quelqu'un qui serait aveugle de naissance se tiendrait complètement hors du monde des couleurs, de même que nous, humains, on est hors du monde de la chauve-souris. Donc, être privé d'un organe nous couperait d'une partie du monde ou d'un monde, si on considère qu'il y a plusieurs mondes qui coexistent. Et à l'inverse, un organe en plus nous ouvrirait les portes sur des mondes qu'on peut même pas concevoir. Il y a un super exemple de ça, c'est Maupassant, qui est loin d'être bête. Et dans son œuvre phare, le Horla, cette petite nouvelle qui en plus colle à peu près avec notre thème du moment, à savoir habiter, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se rend compte qu'il est habité, occupé par un être maléfique. Alors on ne sait pas si c'est vraiment de la schizophrénie, si c'est un truc réel, si c'est complètement imaginé, subi, ou si c'est un truc conscient, enfin voilà. Mais bon, dans ce livre, à un moment, il a une phrase superbe, il dit que si on avait un organe en plus, on pourrait percevoir des choses que on n'est même pas capable d'imaginer, parce qu'on peut pas on n'a pas moyen de les penser, parce qu'on peut pas mettre cette pensée en relation avec un organe qui lui serait lié. Voilà pour ce petit rebond.
Eh ben écoute, je prends ta balle au vol. Et notamment, ce que je voulais prendre au vol, c'est ton idée, en fait, que la pensée, les émotions, l'imagination peut être conditionnée par la biologie. Parce que effectivement, les liens entre la biologie et la pensée ont occupé, en fait, les savants et les scientifiques, les philosophes et tout le monde, en fait, tout le monde se saisit un petit peu de cette question, et c'est bien normal. Et donc, je voulais rebondir sur cet aspect-là, mais pas en faisant l'histoire de tout ça, parce que ce serait bien au-delà de mes compétences et des temps du temps de l'émission qui court, mais pour m'arrêter en fait entre le milieu du XXe siècle et la fin du XXe siècle, et notamment sur deux sciences, la cybernétique et la systémique, qui ont fait avancer des idées intéressantes. Alors cybernétique, systémique, on connaît ces mots, mais on voit pas forcément quel est l'objet d'étude. L'objet d'étude, en fait, c'est les systèmes complexes. Ils vont étudier en fait les systèmes complexes, qu'ils soient vivants ou non vivants, et vont étudier la circulation de l'information, parce qu'on considère qu'il y a une information qui circule dans ces systèmes, et donc ces disciplines vont essayer de comprendre comment ces systèmes sont organisés. Et notamment dans les années 50, ce qui a jailli comme concept, c'est le concept de feedback. C'est le fait qu'une information, elle va aller d'un point à un autre, mais qu'elle peut revenir en arrière. Et que cet élément de retour, de rétroaction, en fait, est très important parce que, bah, notamment dans le cerveau, par exemple, ça va permettre des phénomènes d'anticipation et on pense même, par exemple, que la mémoire est basée sur un système de feedback. Bon, je fais ça très vite. Tout ça pour dire que dans ce courant de pensée, il y avait dans les années 70, 73, Francisco Varela et Umberto Maturana qui ont écrit un livre, je crois, ou un article, je crois que c'est un livre qui s'appelle Autopoietic Systems, dans lequel, en fait, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui spécifie, en fait, le vivant? Comment il est organisé? C'est quoi qui le spécifie? Et ils répondent à cette question en disant, bah, il s'autoproduit. Et donc, en fait, leur idée, c'est que les systèmes vivants vont s'auto-organiser et que c'est ça, en fait, une des particularités des systèmes. Alors, on le retrouve aussi dans le non-vivant, mais dans les systèmes vivants, on retrouve cette capacité d'auto-organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire, en fait, que ces systèmes vont avoir une frontière. Donc, vont avoir une certaine autonomie, mais à la différence de Van Exkull qui considère en fait que les systèmes sont fermés, eux vont considérer que ce système-là, qui a une frontière, peut quand même échanger avec l'extérieur.
C'est donc ça aussi chez Van Exkull. Hein.
Ah, c'est ça aussi.
Qui est un peu cloisonner vraiment les mondes, okay. Mais évidemment, il y a des points de connexion en fonction de... Bon, lui, c'est un biologiste, donc il met ça par rapport aux affects, et mais si il peut y avoir interconnexion et interpénétration de différents univers.
D'accord. Alors du coup, c'est dans le même courant d'idées. Il y a l'importance de la frontière, la continuité avec l'extérieur, et c'est ce qui permet en fait de définir une unité, une entité qui va du coup émerger en fait de cette auto-organisation. Et c'est le concept d'émergence est vraiment très important dans ce courant de pensée parce que c'est celui en fait qui permet en fait d'expliquer comment un système va s'organiser, comment il va pouvoir interagir aussi avec le reste. Et comment, on en reparlera peut-être plus tard, vont pouvoir émerger des niveaux de réflexion différentes. Alors un exemple qui est souvent repris, c'est celui de la cellule, pour vous donner un exemple. Une cellule, elle a une frontière, c'est sa membrane, et puis elle a des organites à l'intérieur, un noyau, etc., qui va lui permettre en fait de s'auto-réguler, en fait, de survivre, de réparer la frontière, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'ils appellent donc un système autopoïétique. Alors, ils vont au-delà de cette pensée et ils se disent bah, peut-être que la pensée, c'est un système aussi autopoïétique. Et la particularité de la pensée, c'est qu'elle se développerait en fait du couplage qui est dynamique entre le corps et l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant dans le courant de pensée de la biologie ou de la psychologie, c'est que ils vont en fait plus loin que le fait d'étudier en fait par exemple le cerveau comme étant un objet qui perçoit ou un objet qui agit. Et souvent ces considérations là vont être très cloisonnées les unes des autres. Là, ils considèrent au contraire que c'est un vrai couplage, c'est-à-dire que le système y perçoit, il agit. Et surtout que la pensée va se développer, émerger de ce couplage dynamique entre le corps et l'environnement. C'est ce qu'ils appellent donc la cognition incarnée ou l'énaction. Et donc moi ça m'intéressait aussi par rapport à ce que tu disais sur Van Exkull, parce que lui aussi parle beaucoup, mais tu viens de le rappeler, de la boucle sensorie motrice qui est le point de référence. Et donc Van Exkull, de la même façon, va parler de ce concept. Alors je sais pas si tu pourrais nous le développer, du Umwelt. Je sais pas si tu as vu ce concept là.
Umwelt.
Ouais, ça va être un mot allemand, c'est ouais. Ça
ouais. Oui.
Voilà, et donc il parle de monde intériorisé qui s'inscrit là-dedans dans cette boucle sensorie motrice.
C'est sa conclusion en fait à la fin du bouquin. Il y a une scène assez jolie, assez poétique d'ailleurs, où il parle d'un arbre et il dit cet arbre, voilà, bah, pour une petite fille qui va passer à la tombée de la nuit, les racines qui sortent du sol comme ça vont avoir des formes un peu effrayantes, alors que le même arbre va être vu par un bûcheron et lui va dire ah ben non, cet arbre c'est tant d'heures de travail pour récupérer tant de bois. À l'inverse, le renard, il va se sentir chez lui parce qu'il aura fait son terrier dans les racines. Le ver à l'intérieur va se sentir en sécurité parce qu'il pensera qu'il est dans quelque chose de dur. Alors que le pivert qui va venir, au contraire, il va associer ce même arbre, donc un même élément vu par différentes personnes ou espèces et pas senti de la même manière.
Ouais.
Alors moi, Fabien, j'avais quand même une
aussi une petite question pour revenir sur ton intervention, et puis peut-être aussi pour que tu nous réexpliques certaines choses, parce que je pense que voilà, on en a certainement besoin. C'est vrai que alors pendant la conversation, vous êtes revenu voilà sur cette question des organismes qui rentrent finalement en connexion avec d'autres et qui a bien finalement pas dans cette production autopoétique, il y a bien un rapport en fait qui est fait avec l'environnement. Malgré tout, moi quand j'ai lu ton intervention pour préparer l'émission et là quand je te réécoutais, j'avais malgré tout quand même des réticences à rentrer complètement en fait en phase avec ton explication dans le sens où je me demandais si plus qu'une autoproduction les organismes ne rentrent pas en fait dans des systèmes de coproduction de l'environnement avec le système biologique et coproduction en fait des vivants entre eux. Alors moi j'y connais pas grand chose en biologie, mais j'avais entendu sur une autre station de radio, ça devait être France Culture ou France Inter ou un truc comme ça. Ah oui, c'était c'est oui. Certain. Et quelque chose sur les bactéries qui vivaient dans l'estomac, et en fait ce qui était montré, c'est que les bactéries à la fois créaient dans l'estomac l'environnement propre à se multiplier et à y vivre, mais que c'était bien aussi le résultat d'une certaine convivance ou d'une certaine solidarité entre bactéries, c'est-à-dire que les bactéries rentraient bien en coproduction, quoi. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas des limites à cette conception de l'autopoïèse, ou peut-être qu'il faudrait que tu me réexpliques certaines choses.
En fait, ce que tu dis n'est pas différent de ce qu'ils disent, puisqu'en fait le système, l'organisation, l'auto-organisation ou le système autopoïétique en fait peut se concevoir et surtout est conçu en fait pour expliquer l'organisation à différents niveaux. Et il y a eu des conférences dans les années 70 justement pour mettre à plat en fait ces différentes disciplines qui parlaient d'organisation, et en fait on se rend compte que ces différentes organisations, auto-organisation et autopoïèse dans le cas de la pensée comme l'explique Varela, se retrouvent en fait à chacun des niveaux d'observation, c'est-à-dire que tu vas l'observer au niveau des molécules, tu vas l'observer au niveau des atomes, tu vas l'observer au niveau de la cellule, tu vas l'observer au niveau d'un organisme. Et donc en fait tu peux en fait concevoir aussi que les organismes vont s'organiser entre eux, et notamment il y a des gens qui ont pensé que on pourrait en fait aussi expliquer, mais alors bien sûr c'est à prendre avec beaucoup de précautions, des comportements sociaux justement par des auto-organisations, c'est-à-dire des groupes de personnes qui vont se mettre en interaction, parce que l'idée en fait de l'auto-organisation, ça veut simplement dire qu'à un niveau donné, il va y avoir en fait des éléments qui vont interagir, et que c'est cette interaction qui va faire émerger un niveau supérieur. Donc par exemple, un groupe de personnes, des individus, vont interagir et vont faire émerger, bah, par exemple, une idée politique, je sais pas, une organisation sociale. Comme en fait, les atomes vont interagir entre eux et créer des molécules, comme les molécules vont interagir entre elles et provoquer des organites plus complexes, comme des cellules vont se interagir entre elles et créer en fait des organes, des organismes. Donc ce que tu dis en fait n'est pas du tout en opposition, c'est simplement le fait que des bactéries peuvent former un groupe, s'auto-organiser pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça le concept d'émergence, c'est que de l'auto-organisation, de l'organisation d'éléments de niveau inférieur, va pouvoir émerger en fait un niveau supérieur.
Yes. Bien. Eh ben, je pense qu'en ce 1er mai, on a plein de choses à retenir de cette explication biologique pour l'appliquer aussi à nos comportements éventuellement politiques.
Alors, il faut y aller avec méfiance par contre pour la socio. Je pense que là, je serais beaucoup plus réticent par contre d'aller faire des explications sociologiques à partir d'algorithmes mathématiques. Je pense que là, et d'ailleurs, ça dérape un petit peu, hein. D'ailleurs, les auteurs qui s'intéressent en sociologie à ces aspects-là, je crois qu'ils sont pas pas toujours très, très bien fréquentable.
On s'écoute une petite musique ?
Bah oui.
Donc on continue dans les histoires canines au niveau musique, puisqu'on va enchaîner avec Melt Banana et Left Dog. Yes. Toujours sur Radio Canu, avec nous les déportés du Cambrien, et on continue le ping-pong avec une petite conclusion de Ben, c'est ça ?
Oui, mais ça va rebondir très très vite. En gros, l'idée, je conclue, je récapitule, c'est que notre pensée et notre imaginaire, qu'on pourrait croire capables de tout, sont en fait tributaires de notre biologie. Et vu qu'on est une émission qui se veut traiter de science et de fiction et de science-fiction, on pourrait croire que dans l'opposition des deux termes, d'un côté, il y aurait la science qui serait limitée par du matériel, du tangible, du pesable, du mesurable, du quantifiable, et une fiction qui pourrait tout se permettre, dans le sens où elle pourrait imaginer n'importe quoi. Et c'est vrai qu'elle peut se permettre beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout. Pas dans le sens moral ou éthique, mais vraiment dans le sens physique et concret du terme. Elle n'est pas capable, notre pensée, de tout imaginer. Mais elle peut imaginer beaucoup. Par exemple, dans les voyages de Gulliver, il va d'un continent à l'autre ou d'un monde à l'autre et il se retrouve sur une planète où il y a que des chevaux et c'est eux les maîtres du monde et les humains sont des espèces de singes à peine évolués et c'est eux qui sont sales et qui se battent. Et sur le même mode, on pourrait imaginer facilement un monde où il y a que des cactus. Je sais pas si vous m'avez vu venir. Attention.
Moi, je pensais à cheval.
Attendez, parce que je suis à la technique, c'est mon premier jour à la technique, et du coup, j'ai zappé un truc. Alors,
je te montre des transitions mortelles, et voilà. Tout est sabordé par les amateurs. Moi, j'en ai marre des touristes.
Alors, attendez, alors normalement, ça va être Jacques Dutronc, les cactus. Voilà. Ça arrive dans absolument une seconde.
Dans leur
Oh, ça se dissipe dans les studios de 102.2 Radio Canu. Les déportés du Cambrien, nous espérons toujours que vous êtes bien au chaud dans votre niche, les petits amis. Et on continue sur ces réflexions hautement intellectuelles avec Anso qui va nous faire un ultime rebond sur ce ping-pong animalier.
Bah oui, parce que effectivement, donc j'ai découvert les travaux de von Uxküll par l'intermédiaire d'une philosophe des sciences, donc que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Vinciane Després. Et du coup, bah comme j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et la manière dont elle en parle, je vais vous reprendre son argument. Je vais rien inventer.
Il faut juste que tu te rapproches, Anso.
Je vais, bah j'y suis, hein. Je vais pas l'avaler non plus le micro. Désolée. je vais vous reprendre son argument. Puisque je le trouve vraiment excellent. Donc ce qu'elle remarque, elle, c'est que von Uxküll permet de penser que connaître le monde, c'est d'abord explorer la diversité des manières d'habiter le monde. Donc ce qui m'intéresse là, c'est qu'en fait, c'est un déplacement au niveau de la connaissance, de ce que c'est que faire œuvre de connaissance et de ce que ça demande, qui me semble assez fort, puisque bah, du coup, connaître, c'est en fait explorer les manières d'habiter le monde, à rebours en tout cas d'une certaine acception de la science. Et du coup, ce qu'elle montre, c'est que bah, von Uxküll va échapper à certains travers, en tout cas à ce qu'elle pointe comme étant des travers, tant des éthologues mécanistes, qui eux bah, appréhendent l'animal comme un être qui ne peut que réagir passivement à des causes, hein, c'était l'histoire du stimulus réflexe qu'on connaisse bien, mais aussi de ces autres éthologues qui réduisent toujours les comportements des animaux, à l'instar des behavioristes, donc ces chercheurs qui font courir les rats dans des labyrinthes, vous connaissez aussi, mais qui se demandent jamais finalement comment le rat interprète la question qu'on leur pose, c'est-à-dire bah courir dans le labyrinthe, quoi. C'est bien sympa. Et du coup, ce que montre Vinciane, c'est que ces chercheurs ont négligé en fait un élément vraiment essentiel de la relation entre l'animal et le monde qui l'entoure, à savoir que bah ce monde n'existe qu'en tant qu'il est porteur de signification. C'est-à-dire que si nous, les humains, ne pouvons percevoir les choses que l'animal perçoit, à l'instar donc de l'acide butyrique dont parlait Ben, enfin que la tique perçoit, mais nous non, parce que ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin pour exister, ça ne fait pas partie de notre monde, ce n'est pas pertinent, ben c'est bien parce que ces choses-là n'ont pas de signification pour nous. Et ce que permet de penser von Uxküll, c'est qu'il en va de même pour les animaux, c'est-à-dire que l'animal ne distingue dans les objets qui l'entourent que ceux qui l'intéressent, que ceux qui comptent pour lui. Donc courir dans un labyrinthe, ça va intéresser un rat que si, à un moment ça fait sens pour lui, quoi. Mais si c'est juste une question théorique de scientifique, il y a peu de chances qu'on produise de l'intelligence chez le rat, quoi. Et on va juste enregistrer la bêtise des rats. Ce qui est un peu dommage, quoi. Tant qu'à faire, autant sacrifier ces petites bêtes à quatre pattes pour... Donc on voit bien du coup comment les entreprises de nombre d'éthologues sont très réductrices, puisqu'elles se demandent jamais ce qui intéresse l'animal. Et elles ne s'autorisent jamais à explorer ce qui compte pour l'animal, alors même que, à mon avis, en tout cas c'est l'avis de Vinciane Després, ce serait vraiment là l'enjeu de ce travail scientifique à partir des animaux, et ce serait là l'enjeu de ce qu'on pourrait appeler une approche finalement écologique de la vie et du monde, qu'il s'agisse ici du monde humain ou du monde animal. Bon, mais alors finalement, du coup, suite à nos échanges, la question en fait que j'ai un peu envie d'aborder ce soir, c'est qu'est-ce qu'il en est finalement des rapports entre humains et animaux ? Est-ce que nous, en fait, humains, pouvons espérer accéder au monde des animaux ? Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le plus souvent, l'éthologie répond à ce problème en adoptant deux postures opposées. Donc soit le monde de l'animal nous reste irrémédiablement étranger, soit je peux comprendre l'animal en lui prêtant mes propres significations. Mais du coup, en lui imposant, en fait... mes questions, et en m'intéressant pas aux siennes. Or, l'intérêt du travail de von Uxküll, et là encore c'est Vinciane Després qui le montre, c'est que justement il n'emprunte aucune de ces deux voies, puisqu'il va considérer à la fois que les animaux nous sont bien étrangers, hein, puisqu'ils ne construisent pas les significations de la même manière que nous, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure, mais que pour autant, il nous est quand même possible d'accéder à ces significations et donc au monde des animaux. Donc il s'agit pour ça d'explorer comment les significations se construisent, comprendre comment un monde se peuple d'êtres et de choses qui importent et qui ont du sens, et du coup chercher comment ce qui a une signification pour l'animal peut également en avoir un pour nous. Alors ça demande un travail de traduction évidemment, et c'est ça qu'il faut orchestrer ou outiller, ça se fait pas comme ça. Et du coup, ce qui m'intéresse dans Phonuxcule et que vous, vous avez repris tous les deux, Ben et Fabien, à votre façon, c'est cette idée que ces mondes, nos mondes, ceux des animaux comme ceux des humains, sont faits de sensations et d'affects. Ben, donc tu parlais de ces aveugles de naissance qui se tiendraient dans un monde hors de couleur. Alors je sais pas si en fait on pourrait pas là aussi essayer d'imaginer une traduction de ce que couleur peut valoir dans ce monde-là. Mais en tout cas, ça m'intéresse d'explorer la manière dont certains humains qui sont privés d'un sens, donc ici la vue, sont amenés à déployer autrement leurs sensations, à se découvrir de nouvelles sensations, à cultiver des sens qu'on cultive pas habituellement, des sens qui nous sont à nous, les humains bienvoyants, parfaitement inutiles, parce qu'on n'en a pas besoin justement pour nous déplacer, pour agir. Et du coup, je m'achemine en fait peu à peu vers la question que je posais, hein, celle de la rencontre entre ici des humains malvoyants et des animaux eux aussi malvoyants, ceux dont a parlé Fabien, à savoir la chauve-souris. Et tu faisais remarquer que les chauves-souris en fait se déplaçaient par écholocation et en fait en disant finalement nous les êtres humains on est incapables de cette écholocation parce qu'on n'en a pas besoin, ça fait pas sens dans notre monde. À tout le moins, c'est le cas des humains qui peuvent se déplacer en prenant appui sur le sens de la vue. Parce que des chercheurs ont montré assez récemment, donc dans une étude publiée dans Psychological Sciences, que les malvoyants pouvaient utiliser l'écholocation pour arriver à se déplacer. C'est aussi une technique qu'un artiste, donc tout à fait voyant, Boris Nordman a cultivé, donc lui c'est pas pour arriver à se déplacer hein, puisqu'il a pas ce problème là de malvoyance, mais pour essayer d'explorer ce que ça nous fait à nous les humains que d'emprunter des sens à d'autres non-humains, à la chauve-souris ou le dauphin puisque lui aussi hein, il procède par sonar. Donc qu'est-ce que ça serait cette humanité, ou qu'est-ce que c'est cette humanité qui est travaillée ou traversée par des expériences qui sont habituellement considérées comme étant celles des non-humains, la chauve-souris, le dauphin? Qu'est-ce que ça fait à nos sens? Qu'est-ce que ça fait au monde que nous habitons? Qu'est-ce qu'il en est de nos hybridations, de nos compositions avec d'autres que nous? Enfin, là aussi, il me semble qu'on rejoint la question politique, pour le coup. Et c'est la question sur laquelle débouche un certain nombre de nos réflexions de ce soir, et que, du coup, j'aimerais bien vous poser, non pas forcément pour qu'on lui apporte une réponse, surtout qu'on n'a plus le temps, mais pour que vous lui apportiez, du coup, pour voir un peu comment ça résonne chez vous.
En fait, on se poserait pas tant du côté du transhumanisme que du transhumanimalisme.
Interspécies. Oh. Ouais, ça serait quelque chose de l'ordre de relations interspécifiques, en fait, entre les espèces, quoi. Et quelle politique ça dessine? Mais ça, ce serait pour une autre émission.
Moi, je veux. Est-ce que tu voulais? Non. Moi, je veux bien rebondir parce que si je partage l'idée que le sens, en fait, est très important et que effectivement, il faut que ça fasse sens pour que pour que l'animal, l'humain puisse évoluer dans son milieu. Et qu'il faut comprendre le sens de sens pour ces animaux, pour comprendre ce que sont ces animaux. Je pense qu'il faut pas aussi par ailleurs oublier le fait qu'il y a une forme. C'est-à-dire qu'il y a souvent une opposition entre le sens et la forme. Et pour moi, en fait, pas seulement pour moi, en fait, on va développer, enfin, on va essayer de comprendre aussi que le sens, il se développe par le fait qu'on va détecter une forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si nos organes récepteurs ne sont pas développés pour produire des ultrasons, ce qui est le cas chez les humains, on peut pas chercher du sens à utiliser en fait cette écholocation. L'écholocation qui est utilisée par les aveugles, c'est le fait qu'ils vont faire clac 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 avec la langue, donc ils vont pas utiliser des ultrasons, ils vont utiliser des sons. Donc la forme, elle est importante, et la forme, elle est tellement importante que on est même prédéterminé génétiquement en fait pour recevoir des choses, et c'est des comportements très 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 forts. Par exemple, l'oison, quand il éclot, il sait à quoi doit ressembler en fait sa mère. Pourtant, il n'a jamais eu d'exposition à l'environnement. Donc, il y a à la fois la force de la génétique, du patrimoine phylogénétique qui est transmis de génération en génération, mais la possibilité de détecter une forme qui est importante et qui va conditionner en fait cette signification. Donc je mettrai pas forcément en opposition. D'ailleurs, je dis pas que c'est ce que tu as dit. Hein.
Non,
c'est pas ce que tu as dit. Mais même si je pense que la signification est importante, je pense qu'il faut quand même aussi mettre l'accent sur la forme. Je l'ai fait courte.
Mais pour moi, ça va complètement. Hein, l'idée que ce soit articulé à un monde, c'est bien qu'il y a plein de formes en fait.
Voilà. Mais du coup, je propose.
Qu'est-ce qu'ils diraient les Little Rabbits de tout ça, vous croyez?
Oui. Ils diraient que les éléphants, ils vont dans la mer et qu'ils peuvent tomber aussi dans l'eau.
Ok, on va les écouter alors.
La mer va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai, tu sais. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. C'est vrai, c'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Les ailes la mer c'est bleu, la mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants y vont. Les éléphants y vont, qui vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage, comme ça. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli.
Bien à la plage. 102.2, la plus rebelle des radios, les déportés du Cambrien, vous êtes toujours là. Alors, on va enchaîner sur la PQ et on entame le rouleau avec Camille.
Ils sont traités de... Non, la science des monstres.
Le traité de tératologie.
Oui, c'est ça. C'est plus sûr, là, j'ai eu un. Voilà.
Ouais, bah, la PQ, tout le monde aura bien compris que c'est la page culturelle jusqu'à présent.
Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on a fait une blague la semaine d'avant, il y a 15 jours.
Jusqu'à présent, on n'a jamais eu le temps de la faire. Voilà. Ouais. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est moi qui Nicole.
Eh ben j'espère que ça va pas trop coller parce qu'il te reste pas beaucoup de temps.
Donc je voulais vous introduire à ce bouquin assez extraordinaire qui s'appelle Des monstres et des prodiges, écrit par un gars qui s'appelle Ambroise Paré. Ambroise Paré, un fameux chirurgien de la Renaissance. Alors vous allez vous dire, ah, il nous ressort encore un vieux truc sorti du fond des âges,
de la Renaissance,
encore un truc complètement bizarre. Mais oui, mais effectivement, du coup, j'ai découvert ce super bouquin dans une nouvelle édition à la bibliothèque de la Part-Dieu. Mmh. Voilà, donc rien que pour ça, je trouve qu'il y a des éditeurs courageux qui se lancent dans des publications d'ouvrages comme ça.
C'est quoi l'éditeur, tant qu'à faire ?
Eh ben l'éditeur, c'est L'Œil d'Or. Je ne les connaissais pas. Oui, c'est joli. Et donc, pour parler un peu plus du bouquin en lui-même, c'est dans les divers bouquins d'Ambroise Paré. Alors, je les ai pas lus, les autres, mais apparemment, d'après la très bonne introduction qui est écrite, c'est un livre qui arrive dans son œuvre un peu comme, je sais pas quoi, moi, pas un pavé dans une mare, parce qu'en fait, ça fait pas scandale. Ça fait scandale dans le sens où, en fait, personne ne comprend pourquoi il écrit des âneries comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ambroise Paré, chirurgien, donc il révolutionne un peu ce milieu-là à l'époque. C'est-à-dire que lui, contrairement aux médecins de son époque, avait les mains dans le caca. C'est-à-dire qu'il y allait, il ouvrait des corps, et à partir de ça, il faisait des découvertes, des nouveaux soins, etc. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, il écrit un bouquin sur les monstres. Et du coup, des monstres qui, bien entendu, il a jamais vu. Et qui est donc son entreprise va complètement à l'inverse de ce qu'il faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire partir de l'expérience et partant de l'expérience développer une certaine rationalité. Là, il va chercher dans des vieux bouquins, il va chercher chez Aristote et chez d'autres des exemples de monstres et du coup il les décrit et il va aussi faire des dessins. Il y a des très très beaux dessins dans cette édition. Voilà, moi j'ai un petit faible pour le dessin du limaçon. Alors je peux pas vous le montrer à la radio, mais je peux juste dire ce qu'il en dit. Et donc le limaçon est gros comme un tonneau. Donc il a les cornes quasi comme celles d'un cerf et au bout desquelles et au rameau audicelle, il y a des boutons ronds et luisants comme des fines perles. Il a le corps fort gros, les yeux lui éclairent comme une chandelle, son nez est rondelet et fait comme celui d'un chat, et puis il a du poil tout autour, et la bouche fort fendue, au-dessus de laquelle il y a une éminence de chair assez hideuse à voir. Alors le dessin est très très rigolo, comme tous ceux qui sont présents dans cette édition, que je recommande fortement. Alors il faut que je fasse vite, mais du coup quel est l'intérêt? Alors moi je voulais faire un petit point aussi sur quel était l'intérêt finalement, en dehors de la curiosité et du goût pour l'exotisme, d'aller regarder comme ça des traités de tératologie de la Renaissance. C'est-à-dire que bon, c'est rigolo 5 minutes, mais qu'est-ce que ça nous apporte à nous les humains du 21e siècle? Voilà. Alors je trouve qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet à nous de réfléchir sur le rapport qu'on a aux images du monde animal. C'est-à-dire que on vit nous aujourd'hui dans un rapport, moi je pense pour la plupart d'entre nous, très très distant à l'animal. C'est-à-dire qu'on a l'animal domestique. Mais par exemple hier soir j'étais à une soirée et on a commencé à parler de l'émission de radio et on a dit Ah, vous parlez des animaux, et il y a une conversation qui est partie, et c'est parti sur quoi ? C'est parti sur le rhinocéros. Et du coup, je pense qu'en fait, notre adoption en fait du monde animal, à nous aujourd'hui, passe beaucoup en fait à travers l'image. Et il me semble qu'en fait, on retrouve cette même fascination chez Ambroise Paré, c'est-à-dire que nous, on est fasciné par en fait des images d'animaux mythiques ou mythologiques, c'est-à-dire que personne ou très peu d'entre nous ont croisé un rhinocéros, il en existe d'ailleurs pratiquement plus. Et Ambroise Paré, lui, est fasciné en fait par des monstres qu'il n'a jamais vus non plus. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux broder ça un peu plus loin avec le très très peu de temps qui me reste ? C'est-à-dire que, en fait, à quoi servent les images de ce traité de tératologie chez Ambroise Paré ? Ces images, en fait, elles servent, selon lui, à aiguiser l'imagination et à nous préparer, en fait, à aborder un monde qui lui semble être extrêmement riche. C'est-à-dire que Dieu a un pouvoir de création complètement infini, et du coup, en fait, par l'imagination, on n'arrivera jamais à englober la totalité de cette création-là, mais en tout cas, on peut commencer à l'apprivoiser. Et il me semble que nous, on continue, en tant qu'être humain au 21e siècle, à avoir le même rapport, en fait, aux images du monde animal. C'est-à-dire que, en allant regarder, je sais pas quoi, moi, des films comme Microcosmos, par exemple, ou des livres d'images sur les tigres, etc., c'est-à-dire qu'on va aborder la nature comme un espace vierge paradisiaque. Et du coup, là, je voudrais amener une petite critique pour finir très rapidement. C'est-à-dire que il me semble qu'on aurait en fait à développer un autre rapport aux images de ce monde animal, sachant qu'on est à l'heure actuelle face à un massacre de masse avec 2000 espèces animales qui disparaissent chaque année. Voilà.
D'accord.
Donc, eh ben, c'est la fin.
Ouais. Ouais, ou je sais pas si on laisse la musique, ou ouais, peut-être on met les bandes continues pour qu'ils s'installent plus rapidement, la causerie, non?
Eh ben, ouais. On met la bande continue, et puis on vous dit ciao.
Eh oui,
normalement, salut.
Bah oui, normalement, on se retrouve dans 15 jours.
Oui.
Voilà. Toujours autour du thème de l'habité.
Et la semaine prochaine, c'est Angle Mort.
Voilà. Bye bye.
Salut.